Bienvenue sur Flux Audio, votre podcast dédié à l'art contemporain.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux figures majeures de l'histoire et de la mémoire artistique liégeoise, Philippe Delette et Jean-Paul Depeyre. Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été tous les deux enseignants, historiens et auteurs. Vous êtes les co-auteurs de l'ouvrage « L'Académie royale des Beaux-Arts de Liège, une école d'art sur 4 siècles ». Cet ouvrage retrace l'histoire de cette institution fondée en 1775. Et donc, je vous invite dans ce podcast, dans ce format sur Flux Audio, à l'occasion donc des 250 ans de l'Académie royale des Beaux-Arts. Alors, vous avez contribué à un cycle de 3 expositions, l'atelier de dessin à la Galerie Noire de la Beauverie de septembre jusqu'au mois de janvier, jusque fin janvier, le 18, oui. Ben, apparemment, ça pourrait se prolonger. Une école d'art sur 4 siècles aux fonds patrimoniaux également, que
jusqu'au 18 janvier.
Pareil, donc ça, ouais. On reste sur cette date-là. Et continuité à la Galerie des Beaux-Arts, qui a débuté donc, au mois de novembre et qui là continue également jusqu'au
19 décembre.
Voilà, vous avez micro ouvert pour nous expliquer l'un ou l'autre comment est-ce que vous avez pu, de cet ouvrage, arriver à cette trinité d'expositions, si j'ose dire, et comment est-ce que vous les avez articulées. Qui commence ? Philippe, vous voulez peut-être vous lancer.
Oui. Lorsque le livre est sorti, on était en 2019 et on avait bien sûr cette perspective de célébrer les 250 ans de l'Académie en 2025. Un problème se posait assez vite parce que dans le courant de 2024, on savait qu'un nouveau collège échevinal allait être mis en place, de nouveaux échevins allaient prendre la relève, donc début janvier. Les anciens ne pouvaient pas s'engager sur le programme des nouveaux. Par ailleurs, le directeur de l'Académie arrivait en fin de mandat en juin.
André Delalot, pour ne pas le citer.
Voilà. Un nouveau directeur n'était pas encore désigné. On était dans une situation d'une personne, Pierre Henrion, qui faisait fonction, qui lui non plus ne pouvait pas prendre de décision. Et lorsqu'on a suggéré cette opportunité de célébrer le 250e, si on n'avait pas eu le soutien des conservateurs du Musée des Beaux-Arts, Fanny Mounz et Grégory de Sauvage, et d'autre part les conservateurs des fonds patrimoniaux Sandrine Van de Castel et Fabien de Noël, qui nous ont dit « on va faire quelque chose, on ne sait pas avec quel budget, mais on va quand même faire quelque chose », et qui ont arrêté les dates des expositions potentielles fin de l'année 2024.
Ouais. Un peu à la hussarde, alors.
Un petit peu, en sachant pas très bien comment on allait pouvoir gérer tout. Et puis, comme on peut voir, tout s'est finalement très bien passé.
Oui, c'est ça, effectivement. En tout cas, les expos sont là.
On est content de la réussite de tout ce programme.
Ouais. Et vous, Jean-Paul, votre rôle dans la rédaction du livre et, votre participation, votre pierre à l'édifice à l'organisation de ces 250 ans.
Il remonte à 30 ans. Comme en 30 ans, nous avons 220 ans. Et on a déjà édité une partie de ce livre, où j'avais fait des recherches à l'Académie et dans les archives ville et de l'État. Et au départ, d'ailleurs, c'était le 100e anniversaire du bâtiment, inauguré par Léopold II le 14 juillet 1895. Et en cherchant, nous avons trouvé que finalement, c'était pas tant la ville qui avait fondé l'Académie, mais bien le prince-évêque. Velbruck, un peu plus tôt, évidemment.
Donc,
on a fêté en 95 le 220e anniversaire de l'Académie et on a repris le livre parce qu'il n'y avait plus d'exemplaires, on a voulu le rééditer. Philippe a largement alors complété ce que j'avais écrit en faisant des tas de petits pavés et amenant, comme il est photographe
Je me souviens de vos diapositives, monsieur Delet.
Il a amené pas mal de photos. Et nous avons complété largement, nous avons trouvé entre autres des explications, certaines choses où on avait mis un grand point d'interrogation en 1995.
Donc ça a été un travail à quatre mains, c'est
oui,
ça
en quelque sorte.
Vous
oui,
avez
oui.
lancé le corpus, hein, c'est vous qui avez... Et vous, vous êtes venu, oui, monsieur oui. Delette, Philippe Delette,
oui, oui.
Ajouter, oui. réécrire...
Oui, le bouquin, oui. L'initiative, c'est Jean-Paul. Hein,
oui, c'est ça, bien sûr.
Parce que... j'avais contribué au premier livre, mais en me limitant, moi, à l'illustration.
C'est ça.
Je n'avais cherché que des documents photographiques pour illustrer le texte de Jean-Paul. Puisque j'étais retraité en 2017, j'ai pu davantage me consacrer à compléter illustrer l'ouvrage, le ouais, texte de Jean-Paul, ouais, ouais. en ajoutant une série de petits points.
Alors, c'est aux éditions du Perron. Le livre est encore disponible, j'imagine. C'est votre base
c'est
pour...
C'est une toute autre histoire, ça.
Allez-y.
On peut la raconter.
Ah oui, bien sûr. Le micro ouvert,
donc,
Jean-Paul, allez-y.
Le livre a effectivement été édité en 2019, mais le Perron a fermé boutique. Donc, tous les livres ont été repris par Wehrich, Neuchâtel, qui en a distribué quelques-uns, comme j'habite maintenant dans le Luxembourg, je constatais dans mon village qu'il y en avait à la bibliothèque et à la librairie. Mais Wehrich, ne vendant pas tout, les a refilés à Mardaga, à Bruxelles,
oui.
qui les avait stockés, si j'ai bien compris la situation, en France.
Oui,
il
oui.
en restait quand même, et il en reste donc encore à ce jour, 277 exemplaires
même,
que
oui.
j'ai achetés. Soyons clairs.
Ouais. Donc, on peut, si on veut se les procurer,
on peut... se les procurer voilà. au prix de 15 euros à l'Académie ou bien aux fonds patrimoniaux.
C'est ça.
J'espère aussi au musée où on va demander de pouvoir les mettre.
Bah, c'est un travail rétrospectif titanesque. C'est votre base, hein, c'est votre socle
oui.
pour constituer ces trois expositions qui sont donc à l'heure actuelle visibles à Liège. Comment est-ce que vous les avez articulées ? Qui se lance pour un peu structurer les trois expos ?
Mais je peux,
allez-y,
je
Philippe
peux commencer Delette. Pour... Donc, la première exposition qui s'est ouverte en septembre, donc dans la galerie noire du musée de la Bovrie, accessible avec un ticket pour les collections permanentes.
Oui, hein, c'est ça.
Pour l'instant, il y a l'exposition d'Oano. Donc, on est au sous-sol. C'est une petite galerie qui est noire parce que les murs sont noirs, mais noire aussi parce que il faut veiller à la conservation des dessins. Hein. Ouais, un dessin ouais. est quelque chose de beaucoup plus fragile qu'une peinture. Et dès
il n'y a
lors,
pas la lumière. Hein.
Voilà. Ouais. Et donc, qu'on ne s'étonne pas si le visiteur se trouve face à une galerie totalement noire qui s'éclaire lorsqu'il pénètre à l'intérieur. Hein. Donc, ça permet de réduire le nombre de... Enfin, la quantité de lumière
c'est
que
ça.
Reçoivent les dessins. Bref. Alors, j'ai fait une sélection sur le 18e et le 19e siècle, qui est actuellement visible, comme je le disais, jusqu'à la mi-janvier, hein, 18 janvier. Des dessins qui ont été choisis à partir des collections du cabinet des estampes et dessins. Et le choix que j'ai fait, pourquoi le dessin ? Parce que le dessin à l'Académie est une spécificité dont les Liégeois n'ont pas toujours conscience en réalité, parce que, en fait... j'étais coordinateur Erasmus pendant très longtemps et je me suis rendu compte que les écoles étrangères avec lesquelles nous échangeions des étudiants étaient très intéressées par le fait que nos étudiants recevaient une formation en dessin, quelle que soit l'année et quelle que soit l'option.
Une formation en dessin d'observation, c'est
voilà,
ça, rigoureuse,
c'est ça. Voilà.
avec des modèles,
et
le nu,
et ça n'existe pas. Ça n'existe pas de cette manière-là ailleurs, que ce soit en Espagne, en Italie ou en France. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une option spécifique dessin. Hein, le dessin à... je ne parle pas de Liège, je ne parle même pas de la Belgique, mais je parle à l'échelle internationale. Le dessin a pris une place qu'il n'occupait pas il y a 30 ans. Hein, il y a aujourd'hui des festivals du dessin, il y a des biennales du dessin, il y a des...
Art on Paper,
voilà, exactement, oui, tout à fait. Hein, et donc, il y a une actualité du dessin qu'il n'y avait pas il y a 30 ans.
Oui, il y a une remontada du dessin figuratif dans l'art contemporain.
Exactement. Ouais. Et donc, il m'apparaissait important de focaliser cette exposition sur le dessin. Alors, le 18e et le 19e siècle, et donc on y trouve aussi bien Léon Philippet, Auguste Daunet, Léonard de France, etc. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi, je trouve, l'intérêt de l'exposition, c'est qu'on se rend compte que des dessins, un dessin de la fin du XVIIIe siècle, a une actualité que l'on ne soupçonnerait pas et que l'on ne... Enfin, c'est un point de vue qu'on n'imaginerait pas avec la peinture du même artiste. Peinture de Léonard de France est très cataloguée fin 18e, quelle qu'en soit sa qualité.
Quoi, quand néoclassique, alors, c'est ça que vous dites.
Quand c'est des scènes de genre, etc., et qui s'inscrit bien sûr dans tout ce contexte de la fin du 18e. Mais quand on voit ces dessins,
il y a une liberté, c'est ça que vous dites.
Oui, il y a une liberté et une actualité. Ouais. On a un peu l'impression que le dessin aurait très bien pu être fait il y a 10 ans.
C'est incroyable, hein. C'est ça.
Et même chose avec des dessins de Léon Philippet, etc. Donc je n'ai pas cherché vraiment l'aspect, dans le choix des dessins que j'ai fait, je n'ai pas cherché l'aspect historique, mais plutôt l'aspect esthétique des choses. Hein. Donc ça c'est l'expo qui se termine dans le courant du mois de janvier. Une autre va prendre le relais sur le 20e siècle. Et le début du 21e siècle, donc toujours l'aspect dessin, donc on va découvrir des dessins ou revoir des dessins de Mambourg, je ne sais pas moi, de Scaufflaire, de Léopold Plompteux, comme de Jacques Lizen, etc., etc. Hein, avec le souci de nouveau de montrer la diversité du dessin, parce qu'il y a des dessins... Il y aura par exemple des dessins que je ne connaissais pas du tout de Jean Dols, qui est surtout connu pour ses gravures, des dessins qu'il a faits pour préparatoire à un décor pour un café du Carré. Des dessins de Luc Lafney, etc.
Enfin, les dessins vous les avez sélectionnés, combien en a-t-il à peu près
Alors, c'est pas encore arrêté. Je peux pas donner le chiffre pour l'expo sur le XXe siècle. Ouais. On est entre 70 et 80.
Ah oui, quand même. Ouais. Je me permets, Jean-Paul m'a glissé le livre, je me permets de citer Léonard de France sur sa pratique du dessin. Voilà. Dans tous les cours, le dessin a un avantage précieux pour la facilité qu'il donne pour suppléer à la disette de la description orale. C'est très raffiné. Jean-Paul, sur le dessin, vous, comment est-ce que vous envisagez...
Ce texte est sorti de la présentation de cours de Léonard de France quand il a été nommé à l'école française par après. Donc il a été d'abord directeur sous le prince-évêque Velbruck. Puis la révolution liégeoise a entraîné les troupes françaises à Liège. Et l'école centrale a été créée, comme dans tous les départements de la République française. Et quand il a, à mon avis, à son premier cours, car le document n'est pas...
Ah, il a dit ça à son premier cours.
Oui, le document n'est pas daté, mais il se trouve à l'université. C'est une double feuille pliée en deux, puis en quatre. Je l'imagine l'avoir dans sa poche, et il y a quelques ratures. Et il l'a sorti lors de l'ouverture de son premier cours, où il s'adressait aux citoyens parents et aux citoyens élèves. Et c'est là que j'ai trouvé cette phrase qui, je crois, résume tout. Et jusqu'à nos jours, comme le disait Philippe, effectivement, le dessin à l'Académie des Beaux-Arts est fondamental.
Ouais, absolument. Et toujours aujourd'hui, toujours à l'heure actuelle, vous pourriez dire.
Et ce qu'il y a à propos de Léonard de France, c'est que dans ce fameux texte dont parle Jean-Paul, il y a des choses... étonnante. Étonnante parce qu'on est à la fin du XVIIIe siècle et on n'imagine pas qu'un professeur d'art plastique, dans sa présentation ou dans son exposé initial à ses cours, annonce à ses étudiants, ou plutôt prévient ses étudiants, de la diversité du discours qu'il peut tenir à un et pas à l'autre.
C'est ça. Ouais. Et donc, la subjectivité, finalement, de l'enseignement.
Et en fait, on devine entre les lignes qu'en fait, ce qu'il cherche, c'est d'une certaine manière à permettre à chacun de ses étudiants, quelles que soient leurs origines ou leurs différences, à développer un projet personnel. Hein, c'est l'enseignement des beaux-arts a cette différence de tous les autres enseignements que ce que le professeur dit à un peut être l'opposé de dit à son voisin. Ouais. Il faut savoir, intégrer cette notion-là. Ouais. Être professeur de mathématiques ou être professeur de langue ou professeur de français ou comme moi, professeur d'histoire de l'art,
vous pouvez tenir le même discours à tout le monde.
Voilà, exactement. Et lorsqu'on doit noter les élèves, c'est en fonction d'une certaine norme, une traduction, un calcul ou une vérité historique.
Et donc, c'est le fait de s'adapter à l'élève, à l'artiste en puissance et
faire en sorte qu'il se développe, lui.
Exactement. Voilà. Vous trouvez que c'est encore quelque chose qui est pratiqué à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas une espèce d'uniformisation qui était inhérente aussi à toutes les époques, contre laquelle il faut lutter.
Je ne peux pas prétendre que tous les professeurs qui ont enseigné le dessin ou une autre matière à l'académie ont suivi le précepte de France. Ouais. Il n'empêche que ce que De France dit là, je l'ai trouvé exprimé d'une toute autre façon il y a quelques années. Je ne vais pas faire les calculs, mais le temps passe vite. Il y a probablement plus de 20 ans, mais Léon Huidard, qui a été professeur en art graphique pendant de nombreuses années.
Un peintre abstrait géométrique de très grande tenue.
Voilà, et d'une extrême rigueur.
Absolument.
Répondait à une question que lui posait à l'issue d'une conférence un de ses anciens collègues d'une école de pédagogie. Il tenait un discours quasiment identique à celui de France. Hein, la différence entre la pédagogie artistique et la pédagogie dans l'enseignement entre guillemets traditionnel, elle est fondamentalement différente.
C'est la spécificité de l'académie. Voilà. Étant ancien élève, la liberté, le développement entre guillemets personnel, vraiment creuser les talents de chacun. Sans vouloir mettre les établissements, les institutions en concurrence, on savait qu'à Saint-Luc, on allait avoir un enseignement plus dirigiste, plus technique, plus uniformiste, d'une certaine manière. Et l'académie était nettement plus considérée comme étant libertaire et en explorant les personnalités individuelles. Le podcast avance.
Oui,
hein.
Oui.
Parlons un peu des fonds patrimoniaux. Vous en avez déjà dit un mot. Philippe Delette. Une école d'art sur 4 siècles, c'est le livre que vous avez mis en avant. Vous avez fait une exposition autour de ce livre, Jean-Paul.
Oui, parce que la plupart des archives conservées à Liège sont conservées justement au fonds patrimoniaux. C'était pour ça que je suis allé trouver les premiers, d'ailleurs, en leur disant on fait quelque chose, parce que ça ne se fait pas, même si je connaissais le bouquin par cœur, ou à peu près, mais ça ne se fait pas d'exposition en 2 mois ou en 3 mois.
Et donc, ce sont les épreuves, les illustrations,
mal de documents, des documents historiques, quelques tableaux représentant le chevalier de Lucie, par exemple, qui était l'ambassadeur du prince-évêque Velbruck à Paris, et qui a soutenu les quelques Liégeois qui avaient lancé l'idée de créer à Liège une académie, ce qui n'existait pas avant, évidemment. Et les Liégeois partaient à l'extérieur, donc on aurait pu les garder si on créait une école. Deuzy a largement contribué à soutenir, en quelque sorte, Wedbruck dans sa démarche. Il y a un portrait de Wedbruck, évidemment, le prince-évêque fondateur de cette école.
L'autoportrait, c'est du fusain, de la mine graphite.
C'est une peinture à l'huile.
Il
y en a plusieurs, hein, de France, et donc on a choisi un.
On a fait la sélection.
Voilà, oui.
C'est une gravure pour Wedbruck, hein, de mémoire.
Ah, oui, Wedbruck, c'est une gravure, oui.
Et alors, on expose surtout ce qui a permis de choisir la date, car je n'ai jamais trouvé, ni quelques-uns qui ont fait des recherches avant moi, ne mentionnent un acte officiel de création d'académie.
Ah oui.
Mais dans les petites annonces de la Gazette de Liège, qui existait déjà, donc, depuis d'ailleurs un certain temps à ce moment-là, du 29 décembre 1774, il est mis que son Altesse Celsissime, le prince évêque de Liège, etc., invite les artistes de la région à se présenter en son palais le 2 janvier 1775, pour qu'ils puissent faire, avec une œuvre, pour qu'ils puissent faire une sélection pour choisir les artistes de sa future académie. Donc, ça bouillonnait à ce moment-là, et on retrouvera peut-être un jour un acte plus officiel.
On est fin 18e.
En tout cas, là, on est tout à fait la veille, le 2 janvier 1775.
C'est ça.
C'est le premier acte officiel, la première fois où c'est mentionné sous le nom qu'elle existe.
Jean-Paul, est-ce que l'Académie royale des beaux-arts de Liège est l'institution pédagogique la plus ancienne de la ville ?
Oui, parce qu'il y a des jésuites, quoi qu'on les avait supprimés, ils sont revenus par après.
Oui,
c'est l'institution la plus ancienne, l'institution publique la plus ancienne de Liège.
Oui. Ça servait à 180 années, elle n'a pas 250 ans.
Mais c'est vrai, ils ont été recréés par après.
Recréés par la suite.
Il y a eu des jésuites avant. Dans quelques années, il faudrait que je vérifie, c'est de ou trois, il ne faudra pas oublier que des mutations ont été créées aussi par le même Wedbruck au niveau culturel, ça a aussi beaucoup d'importance. Et elle existe toujours, elle aussi, l'association dite émulation.
C'est passionnant. Parlons maintenant un peu, pour finir, de cette fameuse trinité du troisième lieu que vous avez évoqué, la Galerie des Beaux-Arts, voilà, avec l'exposition Continuité. Alors là, c'est des œuvres patrimoniales et des créations contemporaines qui sont mêlées. Philippe.
Oui, alors, tout d'abord... Jean-Paul et moi ne sommes pas directement liés à cette exposition.
Voilà,
hein, ce sont les trois écoles, le secondaire artistique de l'Académie, le supérieur et les cours dits à horaires réduits. Hein, donc c'est trois institutions différentes qui dépendent même de ministères différents.
Oui,
c'est intéressant.
Cela dit,
c'est fédéralisé.
Oui. Et donc, trois directions différentes. Et dans le cadre de cette célébration, cette année-ci, il était important de faire le lien entre le passé, en faisant un choix dans les œuvres conservées par le musée, et un choix avec des œuvres plus récentes d'artistes
qui ont fait l'académie,
bien sûr, qui ont été élèves. C'est l'idée de mettre en parallèle le passé et le présent sans qu'il y ait nécessairement une interprétation par le présent d'œuvres plus anciennes. Ouais. Mais je tiens à dire que, en fait, ces deux expos qui se terminent le 19 décembre, qui se sont donc succédés, c'est Marc Sterkendries et Céline Éloi, hein, qui ont été à l'œuvre pour le choix et la mise en place.
C'est eux qui ont fait la curation.
Exactement.
Donc, c'est l'exposition qu'on conseille d'aller voir le plus rapidement. C'est celle plus tôt, le 19 décembre. C'est la Galerie des Beaux-Arts, c'est pas très loin du Potolet, hein, c'est ça.
C'est ça, exactement, tout à fait.
Écoutez, messieurs, on a brassé, je pense, le spectre quasi complet. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose vis-à-vis de ce livre, hein, qu'on conseille ? Je rappelle donc l'Académie royale des beaux-arts de Liège, une école d'art sur 4 siècles aux éditions du Perron, ou alors sur ces expositions.
Ce que je pourrais ajouter, c'est que... l'histoire de l'Académie, c'est évidemment l'histoire de l'enseignement, etc.
Bien sûr.
Mais l'histoire de l'Académie est liée à toute une série d'épisodes de la vie liégeoise, comme par exemple le fait que, en 1914, Lors de l'invasion allemande, on a fait sauter les ponts, et notamment le pont des Arches, et que les statues qui se trouvaient sur le pont des Arches ont été, celles qui étaient encore en plus ou moins bon état, ont été stockées dans les années 20 dans la cour de l'Académie, ont été restaurées par les étudiants et les professeurs, et ont été réinstallées en 1930 dans le pont, sur un nouveau pont,
ouais, c'est ça,
qui a sauté évidemment en 40. Autre épisode, donc on a des photos de ces statues dans la cour de l'Académie. Autre épisode qui a quand même été assez surprenant, lorsque le 11 novembre 1918, l'armistice est signé, les Allemands évidemment prennent la route de l'Allemagne et laissent à la citadelle 1200 malades blessés. Étrangers, prisonniers, mais également il y avait également des Allemands de toutes les nationalités. Il y a des Russes, il y a des Portugais, il y a des Serbes, il y a des Italiens, etc. Des Français, des Belges. Et ces soldats étaient dans un état vraiment malade, blessé, etc. Et la Croix-Rouge et la ville de Liège s'en sont préoccupés et ont réquisitionné l'Académie, qui est devenue un hôpital...
militaire de fortune. Quoi.
De fortune, depuis décembre, depuis novembre 18, jusqu'à fin février 19.
Ah oui, quand même.
Mais 1200 blessés, malades, des dizaines et des dizaines et des centaines d'infirmières et des dizaines de médecins. Alors on a des photos qui se trouvent notamment dans notre livre, qui montrent que l'état dans lequel se trouvaient certains blessés était vraiment assez effrayant, un peu comparable à l'état dans lequel on a retrouvé des malheureux dans les camps à la Deuxième Guerre mondiale.
Tout à fait.
Oui, parce qu'il y a au total 3000 prisonniers, oui, de la citadelle d'une part, mais alors pas mal de prisonniers qui rentraient d'Allemagne, qui de premier pays alliés qu'ils trouvaient, c'était la Belgique,
bien sûr,
et qui étaient directement dirigés de Verviers, entre autres, vers Liège, s'ils n'étaient pas en bonne santé. Donc il y en a 3000 qui sont passés à l'école. Il y en a 78 qui sont décédés et qui sont enterrés à Robermont. Et on a une photo, entre autres, assez exceptionnelle, vu que la photo mentionne sur l'arrière les noms des prisonniers en question. Et il y a deux Portugais que j'ai réussi à identifier par les archives conservées à Genève. Donc j'ai pu voir où ils avaient été faits prisonniers en France, dans une bataille dans le nord de la France, où d'ailleurs toute l'armée portugaise à peu près a été malheureusement embarquée en Allemagne. Et il y a un nom qui est cité, j'essaye de retrouver les descendants de cette personne, mais dans le village qui est cité, la moitié du village porte le même nom.
Oui, c'est difficile.
Donc il faudra aller d'une manière peut-être plus précise.
Messieurs, c'est incroyable quand l'histoire de l'art rencontre la grande histoire.
Oui.
250 ans d'histoire, et quelle histoire! Merci! Merci d'avoir été derrière le micro de Flux Audio. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez, messieurs.
Avec plaisir.
Merci bien.